Bon retour avec nous à la conquête de la terre promise par Josué. Bien que la lecture d'aujourd'hui ne soit pas aussi passionnante que les précédentes, il y a encore beaucoup à glaner dans ces passages d'aujourd'hui. Sortez vos cartes bibliques et allons-y! Les Israélites ont passé entre 5 et 7 ans à soumettre les rois de la terre promise. Lorsque nous lisons à la fin du chapitre 11, le pays fut en repos et sans guerre. Tout le pays de Canaan n'avait pas été conquis, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, mais le peuple était en règle pour poursuivre la conquête du pays. Dieu avait déjà dit au peuple en Exode chapitre 23, verset 30, qu'il ne pourra pas soumettre le pays d'un seul coup, mais qui pourrait s'étendre progressivement au fur et à mesure que le peuple grandirait en nombre, jusqu'à ce qu'il finisse par s'emparer de tout le pays qui lui avait été promis. Si les Israélites continuaient à marcher avec Dieu et à obéir à ses commandements, Dieu aurait continué à chasser leurs ennemis jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de son nom. Malheureusement, nous verrons que le peuple a fait ce que Dieu avait déjà révélé à Moïse et qu'il a progressivement perdu du terrain à mesure que Dieu excitait les ennemis contre lui. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir avec Josué et le peuple en contemplant l'incroyable miracle de la conquête que Dieu a orchestrée avec les Israélites. Quelle liste étonnante des rois conquis au chapitre 12. Chacun de ces rois était bien établi dans le pays, vivant dans les cités-états fortifiées, bien retranchés et capables de repousser les attaquants ordinaires. L'un des rois du début de la conquête de la terre promise sous Moïse était Og, l'un des géants qui vivait encore dans le pays de Canaan. 30 autres rois sont cités, dont les territoires s'étendent au nord de la mer de Galilée, au sud de la mer Morte et à l'est du Jourdain, où les premières tribus d'Israël se sont installées. En lisant la liste des pays conquis, nous voyons des noms qui nous deviendront familiers au fur et à mesure de notre voyage dans la parole de Dieu. Chacune de ces victoires est un formidable témoignage de la puissance de Dieu. Dieu a certainement tenu sa promesse d'être avec Josué et de le rendre victorieux dans le pays. Aussi grandes qu'aient été ces victoires, elles ne sont pas achevées du vivant de Josué. Comme nous lisons les paroles de Dieu à Josué au début du chapitre 13, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand. » Peu importe tout ce que Dieu nous permet d'accomplir dans notre vie, il y aura toujours plus à faire, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Non seulement nous devons bien courir notre course en tant que fidèles serviteurs de Dieu, mais nous devons aussi faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que l'héritage de Dieu se perpétue à l'avenir. Même si une grande partie du pays avait été soumise, il restait encore du travail à accomplir pour les générations futures. La tâche de Josué consistait maintenant à diviser le territoire pour chaque tribu, et les tribus devaient continuer à chasser leurs ennemis. Parmi les exceptions notables au territoire conquis, il y avait des terres des Philistins au bord de la mer Méditerranée, les terres cananéennes au sud et les peuples des montagnes. Néanmoins, Josué avait fidèlement servi le Seigneur dans la bataille, et Dieu voulait qu'il assure que le combat continuerait même après sa mort. Comme il est important pour nous, parents, de transmettre notre héritage pieux à nos enfants et leur apprendre à combattre vaillamment pour le Seigneur avec sa force, puissions-nous être aussi diligentes dans notre formation que nous le sommes dans nos propres batailles quotidiennes. Au chapitre 13, nous lisons que Josué a fidèlement exécuté les ordres que Dieu lui avait donnés. Les Israélites reçurent chacun une portion du territoire, chacun ayant des zones qui devaient être encore soumises. Les tribus de Ruben, Gad et la moitié de Manassé avaient déjà revendiqué les terres à l'est du Jourdain sous la direction de Moïse. Lévi ne reçut aucune partie de ce territoire, conformément à la promesse que Dieu leur avait faite d'être leur lot et leur portion dans le pays. Au lieu de cela, ils devaient habiter dans le pays et Dieu pourvoyait à leurs besoins en s'occupant du tabernacle. Les Lévites, quant à eux, ont reçu des villes pour y habiter, des terres pour leurs troupeaux, et Dieu et le peuple ont pourvu à leurs besoins. Dieu pourvoit si gracieusement aux besoins de ses serviteurs. Tant que le peuple lui obéit et lui fait confiance, les serviteurs de Dieu sont également pris en charge. Ne négligeons pas de prendre soin des serviteurs de Dieu dans nos églises aujourd'hui aussi, mais assurons-nous qu'ils sont bien pourvus par nos dons, nos offrandes et nos prières. Aussi grande qu'ait été la conquête, il restait encore beaucoup à faire. Nous voyons que Caleb, le fidèle compagnon de Josué en tant qu'espion dans le pays, est prêt à relever le défi. Voyant que la région montagneuse autour d'Hébron n'avait pas encore été conquise, Caleb se porte volontaire pour cette tâche. Nous pouvons lire son discours convaincant au chapitre 14, verset 12. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Malgré son âge et ses nombreuses années de combat, Caleb avait encore de la force en lui, prêt à affronter un terrain difficile, des géants dans le pays et des villes fortifiées. Que Dieu nous donne beaucoup d'hommes comme Caleb, qui continuent le combat pour le Seigneur jusqu'à un âge avancé, plein de zèle et impatient de voir Dieu conquérir de nouvelles choses dans leur vie. Caleb a également laissé un héritage pieux, comme nous le verrons plus tard dans la vie de David, lorsque le peuple d'Hébron fut le premier des Israélites à reconnaître David comme roi. Quel formidable témoignage d'une vie bien vécue au service fidèle de Dieu. Pour terminer notre lecture d'aujourd'hui, nous voyons au chapitre 15 les terres choisies par Dieu pour la tribu de Juda. Bien que ces noms ne nous disent peut-être pas grand-chose aujourd'hui, chacune de ces villes était un témoignage puissant de Dieu combattant en faveur de son peuple pour lui donner la victoire. Dans cette liste, il est intéressant de noter que Caleb s'est emparé de la colline d'Hébron et a offert la main de sa fille en mariage à un homme qui ferait preuve de la même bravoure au combat que Caleb dans le passé. Comme il est important d'encourager les autres par notre témoignage de fidélité. Soyons prompts à investir dans les autres et les aider à remporter de plus grandes victoires dans leur vie. Au moment du partage du pays, une exception notable se détache. Les Jébusiens restent bien implantés à Jérusalem. Certes, humainement parlant, c'était une ville difficile à prendre puisqu'il s'agissait d'une ville fortifiée dans le pays, mais nous savons qu'il n'était pas impossible d'en venir au bout. Il faudrait attendre le règne de David pour voir la ville tomber aux mains d'Israël. Lorsque nous nous penchons sur ce récit des conquêtes et du partage du pays, nous ne pouvons que nous émerveiller de l'incroyable puissance et de la fidélité de Dieu à l'égard de ses enfants. Bien qu'il reste encore beaucoup à accomplir, Dieu a déjà donné au peuple ce dont ils avaient besoin pour réussir. Si seulement le peuple de Dieu lui fait confiance, Dieu continuera à faire des œuvres puissantes dans le pays. Si seulement j'apprenais moi aussi à lui faire entièrement confiance. Dieu peut faire des grandes choses si nous nous soumettons entièrement à lui dans la bataille. La victoire nous attend. Soyons comme Caleb et continuons à nous battre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. À la prochaine!